Bonjour Sidonie.
Bonjour Victor.
Bonjour GP.
Bonjour Victor, bonjour Sidonie.
Et bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez sur manifeste.info. Bienvenue dans ce déjà cinquième numéro de notre série spéciale du temps ne fait rien à l'affaire, consacrée à mai 68 et alentour, avec notre ami GP, un gars d'époque qui a encore plein de choses à nous dire et qu'on va écouter avec beaucoup de bonheur.
Alors aujourd'hui, on va faire un petit saut en arrière dans le temps de ne faire rien à l'affaire, c'est-à-dire qu'on était allé au-delà des événements de mai 68 en abordant l'année 1969. Et aujourd'hui, étant dans le vif du sujet, on aimerait retourner sur les événements marquants en fait de cette période et avec bien sûr ton point de vue, GP, et pas forcément celui dont on a entendu parler depuis quelques semaines sur les radios bourgeoises.
Oui, alors ce qu'on entend justement en ce moment sur les radios d'une manière générale à propos de 68, c'est surtout les événements de parisiens. Mais il faut bien voir que ce mouvement a concerné toute la France, que tout le monde avait les yeux effectivement rivés sur ce qui se passait au Quartier Latin, mais que toute la France était concernée, puisqu'on manifestait dans toute la France, et puis il y a eu la grève générale. Il faut bien se souvenir
qui bloque l'économie et qui paralyse
complètement. Donc il n'y a plus de ravitaillement, on fait la queue au poste d'essence, les gens fument un petit peu n'importe quoi parce qu'il n'y a plus rien dans les bureaux de tabac, il n'y a plus de transport, plus de... on s'est toujours arrangé pour s'informer, mais il n'y a plus de distribution de la presse. Et notamment, à ce sujet-là, j'ai vu récemment les photos qui étaient publiées dans France Soir, tous les jours, sur les barricades du Quartier Latin, les barricades de Parisiennes. Et c'est vraiment hallucinant, quoi. Alors maintenant, ça vaut cher, quoi. Elles sont vendues, parce que ce n'était pas distribué. Donc, il n'y a que des Parisiens qui peuvent l'avoir. On n'a jamais eu ces photos-là.
Des gens qui étaient sur place avec leur appareil dans les manifestations, en fait.
Exactement. Alors, c'était distribué à Paris, mais pas en province. Oui, bon, c'est ceci pour donner un petit peu la dimension, le côté un petit peu strictement parisien de certaines choses, mais en revanche, la grève générale, ça concernait tout le monde. Et tout le monde avait effectivement les yeux rivés à Paris. Alors, les événements importants pour moi, c'est surtout l'occupation de la fac de lettres, et puis la grande manifestation qui a ouvert la grève générale à Nancy. Hein, et je n'avais jamais vu une aussi importante. Mais par ailleurs, tout le monde avait effectivement, on écoutait les nouvelles de ce qui se passait à Paris. Et j'ai sous les yeux un petit fascicule publié à cette époque-là, en mai 68, donc, par les combats Seuil, par des ouvriers grévistes, de l'UNEF et du SNESUP. Alors l'UNEF qui était dirigé à cette époque-là par Jacques Sauvageau, et le SNESUP par Alain Gessmar. Il en manque un, le dirigeant du mouvement du 22 mars, mais on est un petit peu dans le vif du sujet. Ce fascicule s'appelle « Le livre noir des journées de mai ». Pardon.
Celui qui manque, c'est Cohn-Bendit, c'est
oui,
ça.
Oui. Et une petite revue de presse des journées du 11 au 13 mai. Alors, dans Combat, le 13 mai, à propos des nuits d'émeutes et de combats, enfin, vraiment extrêmement violents entre la police et les manifestants, du 11 mai. Hein, bon, alors, je dis l'infamie. Nuit de répression féroce au Quartier Latin. De 2h15 à 6h, les forces de l'ordre traquent, matraquent et asphyxient les étudiants. Centaines de blessés et d'arrestations, voitures incendiées, appartements investis. La population parisienne soutient les manifestants vers une grève générale lundi. Recours possible à l'article 16. Ceci pour publier le 13 mai dans Combat, pour donner un petit peu l'atmosphère.
L'article 16, c'est celui qui donne dans la Constitution les pleins pouvoirs au président de la République.
Absolument, les pleins pouvoirs et qui fait du président de la République instantanément un dictateur qui peut disposer comme il veut des forces armées et des forces de police. Là, il y a une épreuve de force qui s'était engagée entre la population et puis le pouvoir, là, c'est très, très nettement. À Nantes, par exemple, c'était le comité de grève qui avait investi la préfecture, et les CRS allaient chercher leurs ordres auprès du comité de grève. Il faut bien voir, c'était la CGT. À Toulouse, c'était quelque chose de très similaire. Hein. On avait Sud Aviation, on avait séquestré le patron, etc. quoi. Donc c'est un mouvement de grève comme on n'avait pas vu depuis 1936, peut-être encore plus important.
Alors moi j'ai une petite question pour bien préciser. Tu viens de nous lire un extrait donc, de Combat, du journal Combat qui a disparu depuis, depuis bien longtemps. Combat, c'était un journal plutôt de quoi ? De gauche ?
Oui, un petit peu de gauche.
Un petit peu de gauche. Ouais. Enfin, c'était pas un journal révolutionnaire. C'était pas. Et il était issu de la résistance.
Oui, bien sûr. Oui. Ouais, mais comme beaucoup de journaux, même Le Parisien libéré. Hein.
Est-ce que c'est pas une vraie différence avec l'époque d'aujourd'hui où on a bien entendu dans l'extrait que tu lis que pour des journalistes, pour les journalistes à l'époque de grands quotidiens nationaux. L'insurrection, la grève un peu insurrectionnelle est quelque chose de normal et n'est pas quelque chose d'affreux. Enfin, aujourd'hui, 50 ans après, on a l'impression que si on lit Libération ou Le Figaro, on va parler de terrorisme, on va parler de... Voilà. Et il n'y a plus aucun recours, aucune citation maintenant de la résistance. On était encore près de la résistance, cet idéal-là, c'est bien ça hein. Faut comprendre.
Alors, c'est une bonne question, ça. C'est parce qu'effectivement, disons que la résistance a beaucoup inspiré les gauchistes, hein, et particulièrement les Mao, la gauche prolétarienne, etc. Hein, puisqu'on se réclamait, même dans les tactiques pour échapper à la police, on se réclamait de la résistance et on s'en inspirait par certains côtés, quoi. Par exemple, l'anonymat, la manière de communiquer, de se donner des rendez-vous, etc. Bon, ça, on avait consulté les anciens. Ça, c'est vrai que la résistance a toujours joué un grand rôle. Des deux côtés, d'ailleurs, parce qu'à droite aussi, on se réclamait de ça, Malraux et tous les autres. Toute la réaction se réclamait de la résistance, en fait. Bon, c'est... Mais nous, on se réclamait pas idéologiquement de la résistance, mais plutôt de... Enfin, aussi, parce que le champ des partisans, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis l'extrême gauche y était pour beaucoup. Souvenons-nous de l'affiche rouge, etc. Hein. Donc on s'est inspiré tout le monde. Mais nous, ce qui nous inspirait surtout, c'était leur tactique, leur manière de faire. Quoi. Pour passer un petit peu, on était à la frontière de la clandestinité. Hein. Il faut voir que les rapports de la police, en ce qui concerne les militants, sont devenus de plus en plus durs à partir de 68, bien entendu. Donc on a passé pas mal de gardes à vue, avec toujours des inculpations de réconstitution de dissoute, en ce qui me concerne deux fois, avec des non-lieux.
Ils venaient vous chercher pendant les manifestations ou pendant
voilà,
les tractages
des arrestations. Non, des arrestations, surtout au moment des distributions de tracts. Ouais. Puisque la direction de l'usine appelait la police, tout simplement, et puis voilà, quoi. Donc, c'était sous prétexte de vérification d'identité, mais on était gardés souvent très longtemps. L'horaire de la garde à vue, ça pouvait être 24 heures, quoi. Bon. Et si jamais c'était pas clair, on pouvait rester plus longtemps. Hein. Donc, c'était difficile, avec des violences aussi, hein, ça se passait pas tout seul, etc. Mais quelquefois, des choses surprenantes. À ce sujet-là, j'ai une petite anecdote. Au moment de la Californie, justement, en 69, j'ai eu une perquisition. J'étais arrêté avec une amie, une autre militante, et on avait des domiciles, on n'habitait plus chez nos parents. Hein.
Mais toujours à Nancy.
On avait un domicile. Mais le juge d'instruction, du substitut, non, c'est pas le juge d'instruction, c'est le substitut du président, du procureur.
Le procureur.
Qui était parti en vacances. Et c'est son substitut, c'est une femme, très très sévère, et qui nous avait menacé de dormir le soir même en prison si on refusait qu'on perquisitionnât chez nos parents. Alors ça, c'était difficile, quoi. Mais bon, on a temporisé, mais finalement, ça s'est fait. Et ils n'ont rien trouvé, puisqu'entre-temps, nos parents en question ont été prévenus par des camarades, et nos parents ont fait le nettoyage nécessaire, heureusement. Alors, parce qu'on était toujours sous le poids d'une réconstitution de Ligue dissoute, à cette époque-là. Donc la réconstitution de l'UJCML. Hein. pas de la gauche prolétarienne, hein, du CML. En 69, hein, bah oui. Parce que la gauche prolétarienne n'était pas dissoute. On avait le droit, à partir de certain moment, de diffuser la cause du peuple. On a eu le droit. Ça n'a pas duré très longtemps. Bon. Alors, au sujet de cette perquisition, donc, il y avait le chef des inspecteurs qui perquisitionnait, était un ancien Indochine. Et chez moi, il trouve un ouvrage que mon père n'avait pas cru nécessaire de faire disparaître, puisque c'était édité chez Maspero. Mais c'est un ouvrage du général Diap. C'est bien le général Diap qui a mis une belle trempe à l'armée française, à Dien Bien Phu, et c'était pas très bien vu. Et le type est rentré dans une colère noire en disant que c'était une honte, que j'étais un mauvais français. Alors,
en ayant ce seul livre en pièce à conviction, en fait.
Voilà. Mmh. Ah, oui, voilà, c'est ça. Mais ça ne pouvait pas servir de pièce à conviction. C'était édité chez Maspero, je crois, tout à fait légalement. Mmh. Enfin, ça en dit long sur la mentalité des flics. Et lors de la même perquisition chez moi, et il trouve une affiche que j'avais conservée parce qu'elle était vraiment trop belle. C'est moi qui les avais faites en sérigraphie. Puis celle-là, j'avais mélangé deux couleurs. Elle n'était pas bonne à montrer l'orange jaune, mais je trouvais que c'était particulièrement réussi et je l'avais gardée. C'est une imprudence. Ça, c'est vraiment pas bien. Et donc, il trouve ça. Et puis, ils ouvrent les deux jeunes élèves qui étaient avec l'inspecteur principal, le chef, ouvrent une de mes armoires et tombent sur une grosse pile de tracts aussi que j'avais gardée. Que je devais distribuer.
Mais du coup, ça, c'était chez toi ou c'était chez les parents ?
C'était chez moi. Ça.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'était de mon appartement. Et ils ont vu ça, les deux jeunes, et ils m'ont regardé comme ça, et ils ont refermé l'armoire sans rien dire. Et l'autre, l'inspecteur, il n'y avait rien ? Non, il n'y avait rien. Alors, il y avait, ça, j'ai noté très... C'était des jeunes qui étaient frais et moulus de la fac de droit, qui avaient vécu 68... et qui trouvaient vraiment tout à fait indigeste quand on leur imposa de faire un travail comme ça. C'est-à-dire de lutter contre des gens qui, finalement, ne faisaient que respecter leurs convictions, faisaient en fonction de leurs convictions. Alors, c'est une petite anecdote, mais qui en dit long, peut-être, sur la scission qui a eu lieu après, dans la société française, en fait.
D'accord. Et du coup, on va revenir avec ça, en fait, sur la mutation, en fait, des mouvements, en fait, des organisations.
D'accord.
C'est ça dont on va parler.
Avant, on écoute un petit morceau de musique.
Oui, alors c'est un petit choix de GP, c'est ça ? Est-ce que tu veux nous en dire un mot tout de suite ?
Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un morceau de Charlie Haden, tiré de son disque Liberation Music Orchestra. Je crois que ça date de 69, justement, de cette époque-là. Et Charlie Haden et Carla Bley ont repris des chants de la guerre d'Espagne, qu'ils interprètent en jazz... avec des cuirs, ça, je trouve ça tout à fait merveilleux. Alors celui-là, c'est Cinque Regimento, un fameux chant de la guerre d'Espagne.
Sans vouloir t'embêter, je pense que c'est en espagnol, on dit quinto.
Pardon.
Ou cinque,
c'est
enfin.
Cinque, c'est oui. C'est quinto. Quinto Regimento. Très bien.
Mais on est entre internationalistes. Hein, voilà, ça va le faire. Thank you.
Alors, au tout début de l'émission, on a parlé de la manifestation à Nancy. Est-ce que tu peux nous en redire un petit mot au niveau de l'ambiance qu'il y avait ? Tu disais qu'il y avait, que c'était énorme, qu'il y avait beaucoup de gens. Pourquoi il y avait autant de monde déjà ?
Ben, il faut bien voir que c'est la manifestation qui ouvre la grève générale. C'était un événement vraiment important. À dire, je me souviens même plus exactement à Nancy le jour où il a eu lieu.
Et vous aviez un mot d'ordre ? Qu'est-ce que c'était
Il n'y avait pas de mot d'ordre particulier. En fait, c'est la plus grosse manifestation unitaire que j'ai vue à Nancy. Vraiment très impressionnant.
Début mai, c'est ça ? Début mai 68
c'était,
ou... dans, non, ces
c'était, ouais, ouais, dans ces eaux-là. Oui, dans ces eaux-là, au début, donc après le 13 mai.
Après le 13
mai. J'ai jamais vu de manifestation aussi importante que ça à Nancy. Et c'est vrai que ça se distinguait par le fait qu'il n'y avait pas un mot d'ordre principal, quelque chose, ça fusait un petit peu de tous les côtés, on chantait l'international, et on gueulait des trucs, je me souviens plus quoi, mais halte à la répression, libérer nos camarades, puisqu'il y avait des gens qui étaient enfermés à Paris.
Il y avait tous les syndicats qui étaient présents ?
Oui, tous les syndicats. Tous les syndicats étaient là.
Tous, vraiment tous.
Vraiment tous, alors peut-être pas vraiment tous, je ne me souviens plus lesquels. Mais en tout cas, très certainement, il y avait tous les partis de gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, les syndicats, la CGT, CFDT, FO. Et puis le FGDS, je ne sais plus ce que c'était, enfin une autre fédération... Voilà, fédération des gauches socialistes, etc. Et manifestement, il y avait une, si je puis dire, puisqu'il s'agit de manifestation, une volonté commune de tous les Français, de tous les futurs, de tous ceux qui ont entamé la grève, de renverser le régime. Hein, voilà.
Et oui, et donc on sent bien. Que c'est un moment de basculement là, que tu es en train de nous décrire. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, ça fera l'objet de notre toute prochaine émission du Temps de faire rien à l'affaire. Bisous, à bientôt.
À bientôt.